J'appelle à présent le professeur docteur Guillaume Sacco. Hein, c'est peut-être prémonitoire, vous allez être nommé professeur bientôt, hein, j'en suis sûre. Voilà, donc très jeune gériatre, alors, un thème important.
Voilà, on m'a demandé de parler donc, du domicile à l'EHPAD, comment aborder cette difficile décision. Donc ça sera moins scientifique, un peu plus ancré dans le concret, mais on a besoin des deux pour avancer dans la prise en charge des patients. Je n'ai pas de lien d'intérêt dans cette présentation, mais c'est important de le redire. Et je voulais d'abord commencer par quelques repères avant d'aller dans le dur du sujet, parce que ça me paraît important. Des repères et des bases que je reprends régulièrement, parce que je me rends compte que les gens ne les maîtrisent pas très bien, et c'est pourtant important. On parle de sujets âgés, donc il faut qu'on parle quand même d'espérance de vie. Alors souvent, l'espérance de vie, on ne sait pas très bien la définir. L'espérance de vie, c'est l'âge auquel la moitié de la population, d'une tranche d'âge donnée, va mourir. C'est-à-dire qu'en général, si vous n'atteignez pas l'espérance de vie, vous faites partie de la mauvaise partie de la population. C'est ceux qui sont morts trop tôt. Hein. Donc on vit relativement vieux, et quand on dit l'espérance de vie 82 ans, ben, en fait, ça veut dire que vous allez vivre au moins 82 ans. La moitié de la population va vivre au moins 82 ans. Donc, on vit vieux. Alors, on vit vieux, on a tendance à penser qu'on est les meilleurs. En Europe, on n'est pas vraiment les meilleurs dans le vieillissement, quand même, puisqu'on est 10e rang au niveau européen. Hein. Derrière le Liechtenstein, la Suisse, l'Espagne, la Suède, l'Islande, la Norvège, l'Italie. Et c'est que l'Europe. Hein. Je ne vous montre pas le monde. Et on a une espérance de vie, ça c'est les données Eurostat hein, que j'ai sorties hier, on a une espérance de vie de 82,5 ans en 2019 contre le champion européen qui est le Liechtenstein à 84,4. On n'est quand même pas trop mauvais globalement puisque vous voyez que les jauges sont assez serrés dans les espérances de vie. Alors on parle d'espérance de vie, d'accord, mais est-ce que l'espérance de vie c'est la finalité, c'est de vivre longtemps? Non, la finalité c'est de vivre longtemps et de vivre bien longtemps. Vous allez voir où je veux en venir. Et vivre bien longtemps, on a des indicateurs hein, en santé publique qui s'appellent l'espérance de vie sans incapacité. Alors là, c'est pareil, c'est l'âge auquel la moitié de la population n'est pas décédée, mais n'aura pas non plus développé d'incapacité. Et là, quand on regarde les chiffres en France, c'est un peu moins bon. C'est un peu moins bon, alors... On se rend compte que bah, on est un peu plus loin, on est peut-être 11e ou 12e, mais surtout les écarts d'âge, d'espérance de vie sans incapacité, là, ils sont beaucoup plus importants. En France, on est à 64,6 ans d'espérance de vie sans incapacité, alors qu'en Suède, on est à 72,7. Donc il y a un âge, un écart entre les pays où on maintient bien les gens en vie, autonomes, sans incapacité, et des certains pays, comme chez nous, on arrive bien à faire vivre les gens vieux, mais il y a un moment où on les fait vivre avec de l'incapacité. On a du mal à lutter contre la perte d'autonomie. Alors, le poids des incapacités. Donc ça, c'est un site internet qui s'appelle le Global Burden Disease, qui est très intéressant pour ceux qui s'intéressent à la santé publique, qui montre le poids au monde, hein, au niveau international, des différentes pathologies. On peut s'amuser avec, c'est assez intéressant. Et ce schéma qui a l'air compliqué, donc j'ai extrait les données pour la France, pour les gens de plus de 70 ans, de la dernière année en cours, c'est-à-dire 2019, parce que généralement en épidémiologie, on a toujours 2 ou 3 ans de retard pour stabiliser les données, et sur un indicateur qui est l'indicateur moyenné de justement l'incapacité par année d'âge restant à vivre. D'accord ? Donc c'est quelles sont les maladies qui créent de l'incapacité ? Plus le carré est grand, plus la maladie crée de l'incapacité. Et plus le carré est foncé, plus c'est en progression. Plus il est clair, plus ça baisse en incidence. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, en 1, on a les maladies cardiovasculaires. D'accord ? Mais c'est en baisse régulièrement. Ça crée de moins en moins d'incapacité. Et en 2, on a la maladie d'Alzheimer et ça monte. Voilà. Ça, c'est les données épidémiologiques sur l'incapacité en France à ce jour. Alors, pourquoi on a de l'incapacité dans les troubles cognitifs? Alors, le professeur Dubois, le professeur Robert vous en ont parlé en partie. On a 2 problématiques principales qui vont créer l'incapacité. La première, c'est la problématique cognitive. On a des problèmes d'orientation dans le temps, des problèmes d'orientation dans l'espace, des difficultés progressives à s'organiser, à planifier ses actions, à savoir faire, manipuler les objets, à savoir s'exprimer, à comprendre ce qu'on nous dit. Et ça va rendre le quotidien de plus en plus compliqué. Et à côté de ça, d'autres troubles qui sont très importants et dont Philippe notamment est très spécialiste, c'est le problème de l'apathie, hein, le manque de motivation. On n'a plus envie de faire des choses, on n'arrive plus à se motiver à aller faire des choses. Et un certain nombre d'autres troubles qui sont problématiques, l'irritabilité qui apparaît précocement comme l'apathie, l'anxiété, la dépression, l'agressivité, les idées délirantes, les hallucinations et beaucoup d'autres symptômes comportementaux qui empêchent progressivement la vie sociale et qui, associés aux symptômes cognitifs, vont entraîner progressivement l'incapacité. Et donc, on en vient à la question de la transition, hein, puisque finalement, pourquoi on me demande de parler d'EHPAD ? Parce que c'est l'arrivée de cette incapacité, de ces incapacités progressives, successives, qui vont à un moment poser, dans certaines situations, la question de l'entrée en institution. Alors pourquoi cette transition, elle est difficile et elle est, on a du mal à l'aborder quand on voit des patients arriver en consultation, ou du moins pourquoi eux ont du mal à aborder ça. La première chose, c'est le sentiment de culpabilité des familles. J'ai essayé, je vous refais un retour, il n'y a pas de chiffres là, c'est un retour terrain de bonne quinzaine d'expériences d'années maintenant, ça commence à vieillir, moi aussi. La culpabilité des familles, c'est vraiment la première chose qui ressort. C'est pour ça que les gens ont du mal à faire la transition, ils ont du mal à en parler, ils ont du mal à accepter le fait de mettre leur conjoint ou leurs parents en EHPAD, c'est parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir fait suffisamment. C'est un sentiment de faillite en fait et d'échec, la transition vers l'EHPAD. C'est souvent vécu comme ça, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Il ne faut pas que ça soit vécu comme ça. Et on reviendra après sur comment on peut faire pour que ça ne soit pas vécu comme ça. Mais il y a vraiment ce sentiment de faillite et de culpabilité qui est un des principaux freins à la transition. Le deuxième gros frein, il ne vient pas du côté des familles, il vient du côté des patients. Et souvent, il est présent quand les gens ont un symptôme qu'on retrouve fréquemment dans la maladie d'Alzheimer, qu'on appelle l'anosognosie, je vais revenir dessus. Ce n'est pas tellement difficile quand quelqu'un se rend compte qu'il est en perte d'autonomie, qu'il est en difficulté, qu'il a besoin d'aide au quotidien, de lui faire accepter d'aller dans un lieu de vie où on va s'occuper de lui. Et souvent même, ces gens-là, ils sont en demande, en fait. Ce n'est pas un problème d'aller en EHPAD pour ces gens-là. Là où ça devient difficile, c'est quand on a l'anosognosie. L'anosognosie, c'est quoi ? C'est l'incapacité qu'a le patient à se rendre compte de ses symptômes. Hein, c'est dans la maladie d'Alzheimer, et ça apparaît souvent très précocement, le lobe frontal est atteint, dont on parlait le professeur Dubois tout à l'heure, et le lobe frontal, il a cette capacité assez exceptionnelle qu'on ne retrouve, a priori, en tout cas pour l'instant, c'est décrit que chez l'être humain, à la métacognition, c'est-à-dire à être capable de critiquer sa propre pensée, se rendre compte que je pense et critiquer la façon dont je pense. Et en fait, dans la maladie d'Alzheimer, cette capacité de métacognition, elle est atteinte assez précocement. Et les gens n'arrivent plus à critiquer leurs propres pensées, ils se rendent plus compte de leurs erreurs, de leurs oublis, et donc, très pratique pour le patient, moins pour les dents, ils n'ont pas de problème. Les gens n'ont pas de problème quand ils ont des maladies d'Alzheimer. Souvent, on voit des gens qui disent « moi, je n'ai pas de problème ». Même dans des stades très avancés, ils ne se rendent pas compte de leurs symptômes, ils n'ont pas de soucis. Encore une fois, très pratique pour le patient, très compliqué pour les dents, parce qu'il faut quand même avancer dans la mise en place des structures d'aide au quotidien. Le troisième problème, le nerf de la guerre, souvent, l'argent. L'institutionnalisation, ça coûte cher, même si y a des aides, même si y a des places, hein, ce qu'on appelle au tarif de l'aide sociale, on parle quand même de plusieurs milliers d'euros par mois, au moins 2 000 hein, pour les prix les moins chers, plutôt 2 500 euros, 3 000 comme prix médian. Et après, on a des prix qui s'envolent, mais après, c'est de la prestation hôtelière. Donc, c'est comme partout. Si vous voulez avoir une belle prestation hôtelière, vous pouvez mettre 5 000, 6 000 euros. Voilà. Mais ça coûte cher. Tout le monde n'a pas 2 000 euros à mettre tous les mois pour vivre quand on a 400 euros de retraite, 500 euros de retraite, comme on a notamment dans les générations là qui arrivent actuellement à des âges comme ça, où on a des femmes d'artisans qui n'ont jamais cotisé, par exemple, et qui ont juste la pension de réversion. C'est absolument impossible s'il n'y a pas des aides. Le cinquième problème que moi j'identifie pour la transition, c'est souvent qu'elle est faite dans l'urgence. On attend, on ne veut pas en parler, on ferme les yeux, on se cache, On essaye de tenir, et au bout d'un moment, la maison brûle, et il faut tout faire en urgence. Et ça, ça rend les choses extrêmement compliquées, parce qu'on ne choisit pas, on n'anticipe pas, et c'est un, à mon avis, des piliers aussi de la, qui rend en tout cas cette transition difficile pour le patient, pour le coup, parce qu'on fait un changement brutal et sans anticipation. Alors comment, du coup, en réponse à ces problématiques, comment on peut faire cette transition? La première chose, la plus importante, et j'ai trouvé que c'était difficile au début où j'exerçais, je le fais de plus en plus et je pense que c'est vraiment important, c'est d'en parler aux patients. On a tendance, quand on parle du sujet de l'EHPAD, à parler à tout le monde, sauf à la personne concernée. C'est quand même très surprenant. Donc, on en parle aux patients. On lui dit, voilà, peut-être que ce n'est pas aujourd'hui, peut-être que ça sera demain, peut-être que ça ne sera jamais, mais il faut se poser la question parce que vous avez une maladie qui... dans son essence, aujourd'hui, malheureusement, fait que vous allez avoir une perte d'autonomie progressive qui va conduire à une dépendance et que peut-être un jour, il y aura besoin de cette structure. Comment vous voyez les choses? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous vous voyez dans ce type de structure? Et si oui, où est-ce que vous voulez aller? À côté de chez vous? Loin de chez vous? Près de vos enfants qui habitent à l'autre côté, de l'autre côté du pays? À la montagne? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez en faire de ça? On peut construire quelque chose autour de ça. Mais si on les fait participer? La deuxième chose, et ça va avec la participation, c'est l'anticipation. On peut, alors je ne dis pas que le jour où on a un patient qui a un MMS à 28 chez qui on fait un diagnostic après la ponction lombaire de maladie d'Alzheimer à un stade prodromal qui est encore en activité professionnelle, je ne dis pas que c'est à ces patients, à ces personnes-là hein, qu'il faut parler de la maison de retraite, en tout cas pas tout de suite, d'accord ? Mais il faut quand même savoir parler de ces problématiques-là de façon précoce et à mon sens, on en parle trop tardivement. Du moment où on commence à mettre en place des interventions professionnelles à domicile, et je ne parle pas de soins infirmiers ou de soins de nursing, où là, déjà, on est vraiment dans la dépendance, hein, mais du moment où commence à y avoir une auxiliaire de vie, une aide ménagère qui vient à la maison, c'est que la dépendance commence à s'installer vis-à-vis d'autrui. Et c'est à ce moment-là où les gens sont encore en capacité de participer aux échanges qu'il faut en parler avec eux. Parce que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, on sera dans la grande dépendance et à ce moment-là, peut-être que la question de l'EHPAD se posera et on aura pu les faire participer parce qu'on a anticipé. Si on n'a pas anticipé, quand on arrive à en parler à des moments où on est dans des stades tardifs de la maladie, les gens ne peuvent plus participer à la discussion, ils n'ont plus la capacité cognitive de les faire participer. Et la dernière chose, c'est de réévaluer régulièrement la situation. Quand la maladie évolue, de se reposer la question, est-ce que c'est maintenant qu'il faut faire les démarches? On en a parlé. Moi, je jette des bouteilles à la mer comme ça en consultation. Vous avez pensé au dossier d'aide sociale parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Oui, mais là, ça va, c'est pas trop tôt. Puis, hop, je regarde, je fais, ah, là, on en avait parlé la dernière fois. Hop, je rejette une petite bouteille à la mer. Le dossier d'aide sociale, ah oui, là, ça, vous l'avez fait. Voilà. On fait avancer les gens comme ça. C'est comme pour le tabac. Hein. Vous avez pensé à arrêter de fumer. Il suffit de poser la question une fois pour faire arrêter de fumer les gens progressivement. On pose la question de temps en temps. Mais l'EHPAD, c'est pareil. Il faut poser la question régulièrement. Vous avez pensé, vous avez réfléchi au sujet, comment je peux vous aider? Et petit à petit, on arrive à faire avancer les gens. Alors, je voulais ouvrir vers quelque chose d'un peu différent aussi, parce qu'on parle du modèle du domicile, on parle du modèle de l'EHPAD, et je pense qu'il y a besoin d'avancer. On a un modèle classique déjà, qui est donc cette transition hein, du domicile personnel vers soit l'EHPAD, hein, donc l'établissement pour, d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou l'USLD, qui est la version intra-hospitalière, c'est-à-dire vraiment pour les patients qui ont besoin de soins médicaux constants et de surveillance continue. Donc, c'est deux lieux de vie hein, qui sont très encadrés, très structurés. Il y a un rapport récent qui a été écrit par le professeur Jandel et le professeur Guérin qui travaillent sur le pôle de Géronto ici, qui propose la création d'unités de soins prolongés, continus, voilà, qui permettrait de rebasculer une partie des gens qui sont en EHPAD sur ces USPC, parce qu'on se rend compte qu'il y a un glissement hein, dans les maisons de retraite progressivement, enfin dans les EHPAD progressivement, on a des patients qui sont de plus en plus lourds, qui sont de plus en plus médicalisés, et ça concourt à la difficulté de prise en charge globalement dans les EHPAD et au sentiment de lourdeur hein, de qu'ont les soignants qui travaillent dans ces établissements, parce qu'ils ne font pas que de l'hébergement de personnes dépendantes, mais ils font aussi du soin, et qu'on n'est pas dans des structures qui sont conçues intrinsèquement pour faire du soin médical. Et surtout, c'est développer l'habitat intermédiaire. Et ça, c'est le rapport Libault, hein, qui date de 2018, qui parle de ça. Il y a des choses qui existent déjà. Vous connaissez les résidences autonomie, les résidences services, par exemple. Hein. Mais il y a plein d'autres types d'habitat intermédiaire qui pourraient permettre d'aller, d'avancer vers la sortie du domicile sans forcément aller jusqu'à l'EHPAD. Et on parle de, alors, d'accueil familial. Hein. Alors, ce n'est pas chez ses enfants, l'accueil familial. Hein. Il y a des familles. Comme pour les enfants, on reçoit des enfants, mais on peut recevoir des personnes âgées. On a des habitats inclusifs. Alors là, moi, j'ai eu une expérience très intéressante avec l'habitat inclusif du côté d'Angers. J'ai fait une année de mobilité sur Angers. On a visité un habitat inclusif. Ils ont reconstruit dans un ancien petit corps de ferme. Ils ont construit 5 appartements et ils se sont installés. Donc 5 personnes âgées dépendantes et ils partagent une cuisine commune. Il y a 2-3 points qui sont en commun. Et après, ils ont leur appartement, leur salon. C'est tout adapté, personnes à mobilité réduite, etc. Et ça lève complètement ce sentiment d'isolement. Quand il y a une infirmière qui passe, ben, elle sait qu'elle peut passer. Elle a déjà les 5 ou les 6 sujets qui sont là. Et le reste du temps, ben, ils font leur vie entre eux, ils s'aident entre eux. Donc, ces habitats inclusifs, c'est aussi des expériences qui sont intéressantes. Dans le domicile d'un proche, hein, aller vivre chez son fils ou les enfants qui viennent vivre à la maison, on le voit beaucoup aussi. Il faut aider à ce que ça se fasse bien, parce que souvent, c'est des transitions qui sont compliquées. Quand c'est des choix qui sont des choix familiaux, ben, dont acte, mais il y a besoin d'aider à ces transitions, parce que ce n'est pas forcément facile de venir habiter chez ses enfants ou d'aller habiter chez ses parents. Les habitats intergénérationnels, et je vous disais, donc les résidences-services, les résidences autonomie. Voilà, donc il y a plein de modèles, il faut réinventer là aussi, il y a plein de choses à réinventer. Je vous remercie pour votre attention.
Merci infiniment. À vous. Je vous en prie, venez me rejoindre. Comme vous avez été rapide, vous nous avez pris au dépourvu, mais on va faire, bien sûr, on va faire venir des micros. Il est un peu perdu, donc le temps qu'ils viennent, je vous pose la première question. On a perdu notre passage de micro, pardon. Juste, est-ce que un des moments clés aussi pour faciliter ce passage, ce n'est pas le diagnostic ? C'est-à-dire qu'au moment où vous posez le diagnostic de la maladie, ne sachant pas précisément son évolution, je dirais, il va falloir que vous parliez à une personne, lui dire qu'elle a une maladie dont vous ne savez pas comment elle va évoluer, et néanmoins évoquer cette situation.
Alors, c'est une question importante, c'est une très bonne question. Je l'abordais un peu dans la présentation. On a aujourd'hui des diagnostics qui sont vraiment faits à des stades très différents. On a des populations qui sont extrêmement hétérogènes dans les centres mémoire. Moi, pour ma part, je m'occupe de la population gériatrique, donc des patients au-delà de 70-75 ans sur le centre mémoire. On a une neurologue qui fait des sujets jeunes. On a des patients qui arrivent en consultation, qui sont en activité professionnelle. J'en suis aussi quelques-uns de sujets jeunes. Mais j'ai en mémoire notamment une dame qui est institutrice, à qui on a diagnostiqué une maladie d'Alzheimer, qui maintenant n'est plus en activité, mais qui a été en activité avec sa maladie pendant 2-3 ans. Ça se passait très bien, il n'y avait pas de souci. Mais ce n'est pas des gens, au moment où on fait le diagnostic, alors qu'elle est institutrice en maternelle, ce n'est pas des moments où on peut aborder ça. Hein. Par contre, effectivement, quand on fait des diagnostics, on va dire, les diagnostics plus classiques du sujet âgé de 78 ans, 79 ans, qui vient avec des troubles de mémoire qui sont déjà un peu installés, qui vient parce que c'est la fille qui s'inquiète, parce qu'à la maison, le frigo est un peu moins plein, qu'on se rend compte qu'il y a des petites erreurs dans les comptes en banque, que quand on discute, ça commence à dérailler un peu de temps en temps. Là, effectivement, quand on fait des diagnostics à ce stade-là de troubles, on va dire, qui sont légers ou modérés, là, effectivement, c'est probablement le bon moment pour déjà aborder la question.
Donc, c'est très important et c'est très subtil et ça dépend aussi beaucoup de vous, du coup. Allez-y.
Un EHPAD très confortable coûte très cher.
Oui.
Alors, ne pensez-vous pas qu'il est beaucoup mieux de conserver le patient, je dis le patient, à domicile, avec des aides, naturellement?
Alors, merci pour cette question très précise.
Oui.
Oui. Vous y répondez?
L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Moi, alors, je vous parle de stratégie personnelle, il n'y a pas de règle. Hein. Déjà, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de règle. À titre personnel, ma bonne façon, je trouve, de m'en sortir, en tout cas dans ces situations-là, et le discours et l'échange que j'ai avec les gens, c'est celui que vous tenez. C'est-à-dire de dire que notre travail collectif, c'est d'essayer, parce que c'est la volonté des gens, ça on le sait dans les chiffres, les gens veulent vivre chez eux. Donc parce que c'est la volonté des gens, notre travail collectivement, c'est d'essayer de les maintenir à domicile le plus longtemps possible, et si possible jusqu'à la fin. Mais, et c'est là où on a besoin d'anticiper, mais il faut que vous entendiez, quand je dis vous, c'est quand je m'exprime envers les patients et envers les aidants, qui disent des fois, moi c'est hors de question, jamais je la mettrai en EHPAD, maintenant c'est hors de question. Je dis, il faut que vous entendiez que aujourd'hui, la situation repose sur vos épaules d'aidante. Si un jour, il vous arrive un pépin, je ne vous le souhaite pas, mais si un jour, il vous arrive un pépin, comment on fait ? Donc, il faut anticiper ça. Il faut avoir fait les dossiers, il faut avoir fait les démarches. La seule chose à quoi ça vous engage, c'est d'avoir rempli des papiers.
Je fais le lien parce que ce genre de réunion, ça sert aussi
à réfléchir
sur la structure. Bruno, tout à l'heure, a parlé de il faudrait faire des centres de prévention au lieu de centre mémoire. Hein, on avait parlé à un moment de centre de fragilité. Qu'est-ce que tu penserais que dans ces centres de prévention, on informe aussi sur la réalité de ce qu'est une EHPAD ?
Oui.
Je vais faire une association qui pourrait être vécue comme négative, mais qui ne l'est pas du tout. C'est, on parle de consignes anticipées par rapport à la façon dont on va mourir.
Hein, c'est important.
Est-ce que, alors que peut-être j'ai les lésions, mais que d'un point de vue cognitif, ça ne va pas trop mal, que je dise à mes enfants, écoute, hein, quand je serai un peu, j'aimerais bien aller en EHPAD.
Hein, vous voulez introduire systématiquement cette...
c'est une information sur les EHPAD.
Bonne question. Je pense qu'effectivement, quand on est dans une dimension de prévention, c'est une prévention du risque social en fait, hein. Parce qu'effectivement quand il y a une forte dépendance et qu'il y a besoin d'aller en institution, c'est qu'il y a un risque social et lié à la dépendance qui s'est réalisé. Et on peut dire, j'entends dire plein de choses sur les EHPAD qui sont plus ou moins vraies, mais n'empêche que heureusement qu'on a des EHPAD.
Pour des situations de dramatique, malheureusement.
Alors moi, j'ai une question, parce qu'on accompagne régulièrement, on a beaucoup de situations qui nous sont orientées sur des personnes donc avec la maladie d'Alzheimer avancée. Et moi, j'aurais une question sur le comment faire la transition, c'est qu'on fait face souvent à des personnes qui ont donc
anosognosiques,
qui sont seules à domicile, hein, clairement, et comment en parler avec eux, qui ne comprennent pas, et on n'a pas forcément d'aidants autour, en plus. Et la mesure de protection, pour moi, n'est pas toujours la bonne solution face à ça. Donc voilà, c'était ma question.
Là, on touche du doigt les situations critiques. Enfin, on est dans les situations complexes, dans ce qu'on gère souvent sur les dispositifs d'appui à la coordination, etc. Voilà.
Vous avez compris.
Moi, j'ai tendance à dire qu'on ne peut pas soigner quelqu'un contre sa volonté. Voilà. Et c'est vrai que quand on est médecin, quand on est soignant, on a envie de bien faire. Et on a des fois envie de faire à la place de l'autre. Et on se dit, oui, ça serait mieux si vous étiez comme ça. Parce qu'on voit des gens qui sont dans d'autres situations et qui sont bien. Mais en réalité, et la loi est plutôt assez claire là-dessus, l'autonomie de décision de la personne, et même quand elle est sous mesure de protection, hein, elle est importante quant à son lieu de vie. Voilà. Donc, il faut informer, il faut réinformer, il faut discuter avec les gens. Je pense qu'il faut être libre des discussions qu'on a avec les gens. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, etc. Il faut leur dire les choses. Alors, il y a une façon de le présenter, etc. Mais après, s'ils ne veulent pas, on ne peut pas les soigner, on ne peut pas les protéger de force. Il n'y a que certaines situations en psychiatrie, il y a des situations mais médico-légalement qui sont extrêmement bornées. Pour ces situations que vous décrivez là,
Ça reste malheureusement, je
ne sais pas s'il faut dire malheureusement d'ailleurs, mais ça reste des choix de vie.
Merci, madame, qui avait le micro.
Oui, je voulais parler de. Vous avez parlé de l'USLD et des EHPAD. Dans mon EHPAD, en ce moment, en tout cas, on constate une augmentation justement de la dépendance, que ce soit la maladie d'Alzheimer ou des soins médicamenteux ou soins palliatifs. La plupart du temps, la charge de travail est énorme. Non. Comment on peut justement conjuguer l'EHPAD avec l'USLD, tout simplement, pour qu'on puisse apporter un accompagnement le plus adapté possible, parce qu'on se rend compte que nous sommes limités justement dans la prise en soins.
Alors je vais repréciser mon propos pour être sûr d'avoir été bien clair. Il y a deux types de structures différentes qui existent en France. Une qui est l'EHPAD, une qui est l'USLD. Unité de soins longue
hospitalière.
Durée, qui est l'USLD, qui est à l'intérieur d'hôpitaux. Il y a une proposition, donc il y a un rapport ministériel qui a été rendu l'an dernier, qui fait la proposition de créer, de supprimer en fait les USLD, de créer des structures qu'on appelle les USPC, donc des unités de soins prolongés complexes, en ayant en ligne de mire que, justement, dans les EHPAD, il y a un certain nombre de patients qui sont très lourds et qui devraient être dans des USLD. Or, aujourd'hui, le nombre de lits d'USLD n'est pas suffisant.
Voilà. Oui.
Et donc, c'est pour faire sortir, en fait, les populations les plus dépendantes médicalement, les plus lourdes médicalement des EHPAD pour les mettre dans des structures de soins à type USPC.
Et augmenter des EHPAD plus médicalisés, est-ce que ce ne serait pas la solution ?
Je peux y répondre un tout petit peu. Plus médicalisés, on est en pénurie.
Oui,
partant de ce principe, on essaye de faire du mieux qu'on peut et on essaye de. Il y a tellement de glissements de tâches que c'est un projet qui est très intéressant, mais nous sommes bloqués. Donc.
Mais pour les USLD, c'est la même problématique. C'est aussi des problématiques de personnel, en fait.
Oui, mais on n'est pas. Enfin, on rentre dans des considérations de santé publique, mais on n'est pas sur les mêmes budgets. Hein. Si on est sur un USPC, on est sur l'ONDAM, on est sur la santé. Si on est dans une EHPAD, on fait porter des coûts sur l'individu. C'est des questions, c'est des choix politiques. Qui sont intéressants, qui sont complexes, et donc il faut s'intéresser à la politique et voilà.
Merci infiniment pour ce témoignage. On peut applaudir et en même temps vous applaudir, docteur Sacco.